Radio Okapi.
La grande édition dominicale de nos informations vespérales avec Jocelyne Moussaou.
Calme précaire ce dimanche à Rutshuru. L'armée maintient toujours ses positions au niveau de Rwanguba alors que les rebelles du M23 sont à Tchengerero, affirment des sources sur place. Arrivé ce dimanche à Bruxelles du Premier ministre Samalou Kondé, il devra assister à la cérémonie officielle de la remise de la dépouille de Patrice Emery Lumumba par la Belgique à la famille du défunt. Docteur Jason Pitua, médecin à la clinique Aide Vision de Goma, est notre invité. Il va s'exprimer sur la sensibilisation contre la cataracte dans le cadre du calendrier du Programme national de la santé oculaire et de la vision. Bonsoir à tous. La cité de Rutshuru s'est réveillée dans une accalmie précaire ce dimanche, selon plusieurs sources sur place. Selon elle, l'armée congolaise maintient toujours ses positions au niveau de Rwanguba, alors que les rebelles du M23 sont au niveau de Tchengerero et certains autres villages des groupements des Jomba et Busanza. Aucune détonation n'a été entendue dans la zone depuis hier samedi, disent ces sources. Elles ajoutent cependant que l'hôpital de Rwanguba aurait été évacué et les malades transférés vers l'hôpital général de Rutshuru. Cette opération d'évacuation a créé une certaine panique au sein de la population. D'après nos sources, les FARDC contrôlent le pont de Rwanguba et veillent à contrer l'entrée dans toutes les zones susceptibles d'être empruntées par les rebelles du M23. Des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est devront se retrouver demain lundi à Nairobi au Kenya pour le troisième conclave des pays membres de cette communauté. Au centre de cette rencontre, la situation sécuritaire à l'est de la RDC et aussi en général l'évaluation du processus politique de Nairobi depuis le dernier conclave d'avril et la composition de la force militaire régionale. D'autres détails avec vous, Noëlla Luzitukabambi.
Cette composition de la force militaire régionale est très attendue afin de combattre et neutraliser tous les groupes armés locaux et étrangers réfractaires au processus politique en RDC. La prééminence de cette question a été dictée par la détérioration de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu avec l'invasion de troupes rwandaises à Bunagana opérant sous la bannière du M23, précise le communiqué de la présidence de la République de la RDC. Le principe de cette force ayant déjà été accepté par tous les chefs d'État le 21 avril dernier, est confirmé par le dernier communiqué du président Uhuru Kenyatta, président en exercice de la communauté. Les propositions du chef d'état-major général qui se sont réunis ce dimanche seront présentées au chef d'état ce lundi, peu avant le conclave proprement dit. Mis à part l'aspect sécuritaire, le volet politique du processus de Nairobi n'est pas en reste. Le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État, qui a conduit les consultations avec 56 groupes armés locaux et 40 leaders communautaires, va aussi présenter au chef d'état l'évolution de ce volet politique dont les résultats positifs sont reconnus au pays et à l'étranger, annonce le document. Et puis les 7 chefs d'État auront un conclave à huis clos pour statuer sur la suite des événements.
Sachez que les 7 chefs d'État qui doivent se retrouver à Nairobi demain lundi sont Uhuru Kenyatta du Kenya, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Salva Kiir du sud de Soudan, Evariste Ndayishimiye du Burundi, Samia Suluhu de la Tanzanie et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC. En bref, le secrétaire général de l'ONU reste préoccupé par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il appelle tous les groupes armés congolais à participer sans condition au programme de désarmement, démobilisation, relèvement et stabilisation communautaire, PDDRCS, et les groupes armés étrangers à désarmer immédiatement et à retourner dans leur pays d'origine. Le secrétaire général réaffirme son soutien aux efforts nationaux et régionaux visant à promouvoir la paix et la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs, notamment par le biais du processus de Nairobi et du prochain conclave de chefs d'État. À cet égard, le secrétaire général exprime sa satisfaction pour les efforts du président Kenyatta dans la poursuite de la paix et de la sécurité dans la région. Ce message est contenu dans un communiqué du porte-parole adjoint du secrétaire général publié hier samedi 18 juin. Et pendant ce temps, au Maniema, une personne a été tuée ce dimanche matin dans la commune rurale de Kalima, territoire de Pangui. Selon le bourgmestre de cette commune, la population a agi de la sorte après la marche organisée par l'UDPS, section de Kalima, pour soutenir les FARDC qui sont au front au Nord Kivu et qui a dégénéré. Cette situation a paralysé toutes les activités dans cette commune, confirme le bourgmestre. Saisi, le gouverneur intérimaire de province est en route vers Kalima en ce moment. Toutefois, dans un communiqué publié ce dimanche, Afani Idrissa Mangala appelle la population au calme et à ne pas prêter le flanc aux ennemis de la paix et du développement. Les détails avec vous, Florence Kizalunga.
Après que cet homme a été tué, une vive tension continue à s'observer à Kalima Centre ce dimanche 19 juin. Pour apaiser les uns et les autres, le bourgmestre de cette commune rurale, Kikobia Fata Kifilemon, appelle la population au calme et à éviter des actes de haine, les conflits internes et règlements des comptes. Tous ces comportements sont contraires au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Or, sans l'unité, pas de développement possible de la commune rurale de Kalima et d'Imaniema en général. Bien avant lui, c'est le gouverneur intérimaire qui a lancé ce même message. Afani Idrissa Mangala a, dans un communiqué officiel, appelé ce dimanche la population du territoire de Panga en général et celle de la commune rurale de Kalima en particulier au calme et à ne pas prêter le flanc aux ennemis de la paix et du développement. Vu la gravité de la situation, le gouverneur intérimaire se rendit à Kalima accompagné de certains membres de son gouvernement et du Conseil de sécurité pour échanger avec cette population. Dans son meeting, Afani Idrissa a sensibilisé et conscientisé la population à l'amour. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
La guerre actuelle dans l'est de la RDC fait aussi la une dans la presse de l'Équateur, dans les journaux comme dans les magazines d'information. Le sujet occupe une place de choix. Certains intervenants se montrent durs à l'égard des agresseurs, mais le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a tenu à appeler les médias à un traitement responsable et professionnel des informations relatives à cette guerre. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Sur les chaînes de radio locales en Mbandaka, les acteurs sociopolitiques se montrent révoltés et attentifs à ce qu'ils qualifient de guerre d'agression dans l'est du pays. Par un élan de patriotisme et de solidarité nationale, ils analysent et s'expriment sur l'évolution de la situation, y compris la population dans les coins et lieux publics. Dans des lieux de culte, les fidèles font d'intenses prières en faveur d'abord de la victoire des FARDC, mais aussi en faveur du chef de l'État et des acteurs politiques qui soutiennent réellement, disent-ils, la cause nationale. En revanche, certains intervenants expriment leur indignation contre des acteurs politiques ainsi que des officiers militaires, policiers et des responsables des services de sécurité, lesquels seraient de mèche avec le Rwanda et ils les accusent de haute trahison. En guise de recadrage des uns et des autres, le coordinateur du CESAC Équateur a réuni ce samedi les responsables des maisons de presse de Mbandaka, Maître Espérant Moussamba, les a enjoints à un traitement professionnel suivant les instructions reçues de sa hiérarchie.
Les journalistes doivent rester professionnels. Ils doivent garder leur neutralité. Ils sont là juste pour diffuser l'information. Alors, ils ne doivent pas apporter des commentaires dans le sens, par exemple, de décourager nos forces armées, inciter les troubles ou la xénophobie, ainsi de suite, au niveau de la province, au niveau du pays. Et aussi, c'est réserver des émissions à téléphone ouvert.
Mbandaka, Paul Chamalingé, la radio Okapi.
Dans la province de Maïndombe, un jeune homme a été sérieusement torturé et grièvement blessé par un colonel de la force navale de Bolobo, dont le territoire qui porte le même nom. Les faits se sont passés hier samedi au commissariat de police de Bolobo lors d'une audition. Selon maître Eric Bentombi, un avocat qui dénonce ce fait, ce jeune homme a été torturé en présence du commandant de la police en place, le major Fidel Ebengompeti. Il exige que la justice se saisissent du dossier afin que celui-ci réponde de ces actes qu'il qualifie de barbarie. Irène Boma nous en parle.
Le gouvernement provincial du Kwilu, sous la main de maître son excellence Willy Tundalassang, vient de totaliser 3 ans sur l'héritage de la province du Kwilu. Le 3 ans que fait le gouvernement Tundalassang.
On suivra cet élément d'Irène Boma prochainement. Pour l'instant, je voulais annoncer dans les titres, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé à Bruxelles ce dimanche matin. Il devra assister à la cérémonie officielle de la remise de la dépouille de Patrice Emery Lumumba par la Belgique à la famille du défunt. Cérémonie prévue pour demain, lundi 20 juin. Une veillée mortuaire sera organisée à l'ambassade de la RDC en Belgique demain, ainsi que l'ouverture d'un livre des condoléances. Écoutez, l'ambassadeur de la RDC en Belgique qui revient sur l'importance de la restitution de la relique de l'ancien Premier ministre congolais assassiné. L'ambassadeur Christian Ndongala a été joint au téléphone par Cynthia Bachizi Nabizana.
Le retour de reste de notre premier Premier ministre est un événement important qui va au-delà d'une simple symbolique. C'est un moment qui va nous réconcilier avec notre passé, nos ancêtres, et nous relier au futur, avec notre génération future, nos jeunes. Car Lumumba, c'est un maillon important de l'histoire de notre pays. C'est aussi la réconciliation d'un peuple avec lui-même. C'est le Congo qui retourne au Congo. Lumumba incarne le Congo. Je dirais même plus l'Afrique. Donc, c'est l'Afrique qui retourne en Afrique, au sens figuré, bien entendu. Ce retour annonce la fin d'un cycle, un cycle qui part de la colonisation à l'indépendance, avec cet événement tragique de l'assassinat de M. Lumumba, jusqu'à l'avènement du président Tshisekedi. Enfin, c'est une étape importante de la réconciliation avec la Belgique. Certes, pour construire une relation commune, il faut regarder vers le futur, mais je dirais sans oublier le passé. Je salue ici l'implication de la Belgique, même si ce retour et avant tout le dénouement d'une décision judiciaire, il n'en demeure pas moins que le gouvernement belge a pris une part importante que je salue.
Notez que le rapatriement à Kinshasa de reste de Patrice Emery Lumumba aura lieu ce mardi 21 juin. Ça sera à bord de l'Airbus Patrice Emery Lumumba de la compagnie Congo Airways, un avion floqué à l'effigie de Patrice Emery Lumumba pour l'occasion. Direction le Kasaï oriental où un nouveau projet sera bientôt implémenté dans l'espace Kasaï dans la province du Kwilu. C'est ce qui justifie la présence à Mbujimayi depuis hier d'une forte délégation du groupe d'experts de la Banque mondiale conduite par le coordonnateur national du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prise en sigle. D'après Deo Sunzu, le nouveau projet dont le financement est à hauteur de 400 millions de dollars va s'inspirer des travaux déjà réalisés par son organisation avant son démarrage. Deo Sunzu, coordonnateur national de prise, s'exprime au micro des journalistes des coulisses.net.
Nous revenons avec une délégation qui est aussi partenaire financier de la République démocratique du Congo, notamment à savoir la Banque mondiale, qui est venue pour évaluer et qui aussi a eu des informations, notamment de ce qui a été fait dans le cadre du projet PRISE. Donc c'est sur base de ces réalisations qui sont palpables aujourd'hui et qui fait que bon, ça attire les regards aussi des autres partenaires. Donc notre présence beaucoup plus aujourd'hui, c'est de les accompagner, à voir ce qui a été fait, partager les expérience que nous avions acquis dans le cadre du projet PRISE sous financement de la Banque africaine de développement, leur montrer nos difficultés puisque nous en avons connu aussi, les défis que nous avions connus dans la zone, en vue de permettre à ce que les nouveaux projets eau et assainissement puissent se réaliser dans les délais et aussi puissent avoir des résultats palpables ou encore beaucoup plus même supérieurs à ce que PRISE a été fait. Puisque PRISE est en train d'appuyer l'addiction d'eau potable de la ville de Mbujimayi, aujourd'hui les travaux sont au-delà de 70% en milieu rural. Vous tous, vous le savez très bien que nous avons fait des grands réservoirs et châteaux d'eau. Certains sont en train d'attendre des pompes qui doivent être posées parce qu'il y a des petits réglages du point de vue d'opérie et technique.
Au Maniema, sept villages du groupement Oulimba dans le secteur de Beia, territoire de Pangui, sont victimes d'une catastrophe naturelle causée par une pluie accompagnée d'un vent violent et ensoufflé hier samedi. Ceci a détruit plus de 200 maisons et une école. La société civile locale qui alerte plaide pour une assistance d'urgence. Maître Njoloko Kabe, président de la société civile de Beia, explique au téléphone de Florence Kizalunga.
dans le secteur de Béa, précisément dans le groupement Oulimba, il y a eu une pluie qui s'est abattue et un vent violent dans la nuit du samedi 18 juin 2022 qui a causé des dégâts. Il y a eu des murs écroulés et des toitures emportées dans le 7 village. Donc il s'agit de villages Vilenda, Moza, Ngongometa, Makunju, Kibila, Kintono et Bimpombi. Donc au total, il y a eu 278 maisons dont les murs sont écroulés et des toitures emportées. Il n'y a qu'une seule école qui a été touchée, les murs sont écroulés aussi. Jusqu'à présent, il n'y a pas de dégâts humains, à part seulement les murs qui sont écroulés et les toitures emportées. Donc la société civile secteur de Béa alarme aux autorités nationales et provinciales, ainsi aux humanitaires tels que nous avons Cafode, nous avons Caritas Kassongo, de venir cette population en aide qui passe la nuit sous la belle étoile.
Actualité internationale.
Un casque bleu a été tué par une mine lors d'une patrouille de la MINUSMA ce dimanche matin à Kidal, affirme le chef de la mission de l'ONU dans le pays, El Ghassim Wane. Le 1er juin, un soldat de la paix y avait été tué et trois autres blessés dans l'attaque de leur convoi. Le Qatar a annoncé ce dimanche avoir choisi le géant énergétique italien Eni comme deuxième partenaire étranger après le français Total Energy pour le développement du plus grand champ de gaz naturel au monde. Eni a déclaré le ministre qatari de l'énergie et PDG de Qatar Energy lors d'une conférence de presse à Doha. Le groupe pétro-gazier français a été choisi il y a une semaine pour prendre une part de 6,25% dans le projet qui vise à aider le pays du Golfe a augmenté sa production de gaz naturel liquéfié de 60% d'ici 2027.
L'invité.
La cataracte chez un enfant doit être traitée de toute urgence. Dans le cas contraire, sa vision ne va pas se développer. Message du docteur Jason Pitoua de la clinique Aide-Vision de Goma. C'est à l'occasion de la campagne de sensibilisation contre la cataracte. Cette campagne rentre dans le calendrier, dans le cadre du calendrier du programme national de la santé oculaire et de la vision. Le docteur Jason Pitoua est notre invité. Il répond aux questions de Rosalie Zawadi.
Docteur Jason Pitoua, bonjour.
Bonjour, madame.
Quelles sont les activités que vous menez dans le cadre de cette campagne du mois de juin?
Alors, pendant le mois de juin, la communauté des soins oculaires dans le monde et les programmes nationaux qui sont intéressés par la santé oculaire ont choisi ce mois pour la sensibilisation contre la cataracte. Alors, nous représentons ici le programme national de la santé oculaire et de la vision au niveau de la RDC. Et aussi, en étant acteur et clinicien, nous suivons ces programmes que prône le programme national et la plupart des pays aussi dans le monde qui sensibilisent contre la cataracte.
Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la cataracte?
C'est que la cataracte est définie comme l'opacité du cristallin. Et le cristallin, c'est une petite partie de l'œil qui normalement est transparent. Alors pour diverses causes, l'œil peut perdre la transparence au niveau du cristallin, qui fait que le cristallin devient opaque et ne permet pas à la lumière de passer. Ça veut dire que la personne a comme une obstruction interne qui fait que son œil ne peut pas percevoir correctement. Alors la deuxième chose qu'il faut retenir avec la cataracte, c'est que elle constitue la cause principale, la première cause de cécité dans le monde entier, parce que d'environ 40 millions de personnes qui sont aveugles dans le monde, près de la moitié le sont à cause de la cataracte. Autre chose que nous devons savoir, c'est la bonne nouvelle par rapport à la cataracte, que c'est bien que c'est la cause principale de la perte de la vision, elle est réversible totalement parce qu'il existait une cure pour la cataracte. Et quand on a opéré la personne qui souffre de la cataracte, elle peut totalement recouvrer sa vue. Et aussi, il y a des formes de cataracte qu'on peut éviter parce qu'il y a des cataractes qui sont secondaires. Et ça peut être secondaire à certains traumas. Ça peut aussi être secondaire à certaines maladies générales comme le diabète sucré. Alors si le diabète sucré est bien contrôlé, il y a peu de chances qu'il provoque la cataracte. Et quand il n'est pas suffisamment bien contrôlé, la glycémie est très instable et ça finit par provoquer de la cataracte qui est secondaire.
Est-ce que la cataracte est réversible à tous les niveaux, même si la personne était déjà devenue totalement aveugle?
Ça, c'est la très bonne nouvelle par rapport à la cataracte. Comme nous l'avons dit, elle est totalement réversible parce qu'elle constitue une opacité qui obstrue la vision. Il suffit de lever cette obstruction et la personne peut voir encore. Alors, ceci est vrai pour la cataracte de l'adulte. parce que les enfants peuvent soit naître avec la cataracte, soit acquérir la cataracte à un âge vraiment très bas, même parfois à moins d'une année. Alors si on n'a pas soigné l'enfant très tôt, on peut soigner la cataracte, mais l'œil peut ne pas se développer parce que l'enfant peut développer ce que nous appelons amblyopie. Et dans ces cas, la cataracte sera réversible, mais la perte de la vue ou le manque de développement de la vue peut ne pas l'être.
Et la personne va grandir aveugle.
Voilà. La personne peut grandir aveugle. Cela constitue toute l'importance qu'il faut pour détecter très tôt un enfant qui souffre de la cataracte parce qu'il peut bénéficier d'une opération et lui permettre le bon développement de sa vision. Et un enfant qui est aveugle, quand on doit compter le nombre d'années qu'il sera aveugle, c'est vraiment très malheureux. Donc il est très important que la communauté des professionnels de santé puisse comprendre que la cataracte, chez un adulte, peut attendre le temps que ça attend. N'importe quand, on peut le soigner, il peut récupérer la vue du fait qu'il a déjà atteint la maturité visuelle il y a plusieurs années. Ce n'est pas la même chose pour l'enfant, parce que la cataracte infantile constitue une urgence.
Alors docteur, quel message à la communauté afin qu'aucune personne ne supporte, ne subisse la cécité pour une cause pourtant irréversible?
Il faut que la personne soit orientée vers les structures qui ont la compétence de faire cela. Alors à cette solution au problème, il existe deux barrières. Des barrières qui sont d'ordre social, économique et financière, et parfois même d'ordre uniquement géographique. Parce que même dans notre pays, il y a des provinces entières qui n'ont pas de services. Et donc même celui qui a l'argent ne peut pas se faire soigner sur place s'il ne se déplace pas jusqu'à un endroit où se trouvent des structures qui peuvent le prendre à charge. Ça veut dire que la responsabilité pour ne pas maintenir aveugles des gens qui peuvent voir encore est partagée par la communauté, mais aussi par les dirigeants. Ça veut dire les gens qui prennent des décisions au niveau de la santé, au niveau du pays.
Docteur Jason Pitoua, merci.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.